This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le discours de Donald Trump que vous avez déjà probablement entendu par ailleurs, dans lequel il explique que l'élection de 2020 a été volée. Il le prononce le soir même de cette élection. Vous vous êtes déjà demandé comment cela se faisait-il que tant d'Américains croient en ce mythe d'une élection volée ? Eh bien, c'est précisément le sujet de cet épisode. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel.
Je suis Simon Desplanck.
Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes docteur en American Studies. Votre thèse portait sur les mythes dans les discours présidentiels américains. Vous êtes également enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et auteur, entre autres, de deux articles qui sont glissés dans la description de cet épisode. Je citerai ici notamment votre article « Donald Trump, Enemies Within Rhetorical Construction and Political Meaning » dans un ouvrage collectif dirigé par Marie-Christine Michaud, Pauline Pilote, Delphine Letor, « États-Unis entre union et désunion ». Ainsi qu'un article pour The Conversation, pourquoi tant d'Américains croient-ils que la présidentielle a été volée à Donald Trump en 2020, qui sera donc au cœur de notre discussion aujourd'hui. Dans un tout premier temps, Jérôme Viala-Godefroy, je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs de se rappeler d'abord qu'est-ce que c'est que cette élection volée, d'où vient ce narratif ?
Oui, alors donc l'élection volée, c'est cette idée que l'élection de 2020, en fait, a été gagnée par Donald Trump parce qu'il y a eu des fraudes. Tout type de fraude, à la fois des fraudes parce qu'il y a eu des faux électeurs et éventuellement même d'ailleurs des immigrés illégaux qui ont pu voter, parce que les machines ont été truquées, parce que des gens ont voté par correspondance alors qu'ils n'étaient pas censés voter, qu'il n'y a pas eu de vérification. Donc voilà, il y a un certain nombre d'allégations qui ont toutes été prouvées comme étant fausses puisqu'il y a eu même des recours judiciaires. Mais cette croyance s'est vraiment commencé à être populaire de plus en plus, et y compris une majorité de républicains. Et d'ailleurs, il se trouve que Donald Trump, avant les élections, en fait, avait dit « je ne peux perdre que s'il y a fraude ». Donc, il était déjà parti sur cette idée-là. Et en fait, cette confirmation s'est faite. Il y a plein d'éléments qui expliquent en partie ça, notamment que le fait que au début des résultats, vous avez surtout les comtés ruraux qui sont dont les résultats viennent officiellement. Et puis, au fur et à mesure que les villes, les résultats des villes arrivent, qui arrivent un peu plus tard, effectivement, les chiffres ont commencé à être de plus en plus défavorables à Donald Trump. Donc, il a dit, voilà, vous avez vu au début, j'avais des meilleurs chiffres, on a changé les chiffres, etc. Et ce qui est assez étonnant, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de massif, c'est qu'on a 30% des Américains qui croient à cette fraude électorale, donc qui croient que Joe Biden n'est pas légitime. Et en fait, c'est 70% des Républicains. Et c'est là où c'est inquiétant, puisqu'on a 70% des Républicains d'un côté, donc, chez les démocrates, évidemment, 80% qui n'ont pas de questions. Et donc, on a vraiment une division, en fait, entre démocrates et républicains, y compris sur la réalité du vote.
D'accord. Et donc, on peut d'abord rappeler aussi pour nos auditeurs, vous l'avez dit, hein, que c'était il y a déjà très longtemps, cette élection a eu lieu en 2020, et donc, pendant le Covid. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, qu'il y a eu une pratique qui était déjà en place auparavant, mais qui, cette fois-ci, a été systématisée d'un vote par correspondance. Mais peut-être pour nous interroger, comment s'est répandue cette rumeur ? Par quel canaux, notamment ?
Alors, il faut dire que là, je pense qu'il faut, penser à cette idée de, en fait, de bulle informationnelle. Depuis déjà pas mal d'années, en fait, depuis même les années 90, on a commencé à voir l'expansion des réseaux conservateurs, avant même d'ailleurs Internet, par la radio, par exemple, la multiplication des radios, puis Fox News et enfin les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que les gens s'informent auprès de médias d'opinion. Et dans ces médias, il y a une remise en cause petit à petit du résultat des élections. Et en fait, on l'a vu par exemple chez Tucker Carlson sur Fox News, qui avait bien remis en cause dès le début le résultat. Et donc, en fait, à partir du moment où les gens vivent dans cette bulle informationnelle et qu'en plus, ils sont dans des lieux, puisque la polarisation aux États-Unis entre démocrates et républicains, elle est aussi répartie sur le territoire. On a des gens principalement dans les États les plus ruraux, par exemple, et puis qui s'opposent avec les gens qui sont en ville. Et donc, maintenant, on a cette opposition ville-ruralité. Et donc, ces gens qui sont républicains, qui vivent dans des poches, entre guillemets, républicaines, et qui s'informent sur des chaînes d'opinion ou par les réseaux sociaux, ne se disent « c'est pas possible, de toute façon, que Biden ait été élu. Autour de moi, dans mon entourage, je ne connais que des gens qui ont voté Trump. » Et en plus, on me dit qu'il y a des fraudes, parce que il faudra, on va en reparler, j'imagine, mais il faut voir que derrière, il y a des organisations, il y a des lobbies, comme le Heritage Foundation, par exemple, qui remet en cause depuis longtemps les résultats d'élections et qui dit qu'il y a un problème d'intégrité du vote.
Voilà, et donc, on peut maintenant continuer l'étude de ce mythe, et faisons, l'espace de quelques minutes, l'avocat du diable. Est-ce qu'il existe des preuves, des éléments qui permettraient de nourrir ce narratif? Alors, bon, vous l'avez dit, hein, Donald Trump a annoncé à l'avance que s'il gagnait pas, c'est qu'il y aurait des fraudes, donc évidemment, ça laisse déjà présager de votre réponse, mais existe-t-il des preuves qui permettraient d'attester ce mythe?
Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord, il faut se souvenir comment c'est le vote aux États-Unis. Les votes sont organisés dans chacun des États de façon un peu différente. Jusqu'à assez récemment, il n'y avait aucun besoin d'avoir une pièce d'identité pour aller voter. Donc, vous allez voter, vous signez sur le registre et puis, voilà, vous avez voté. Ça a été remis en cause. Donc, déjà, il y a cette idée que, voilà, il n'y a pas de preuve d'identité. Est-ce que ce n'est pas un problème? Et puis, donc, pas mal d'États, d'ailleurs, ont commencé à passer des lois allant dans ce sens. Alors, on verra pourquoi ça pose quand même un certain nombre de problèmes, ces lois. Mais il y a, dans ces organismes que je citais tout à l'heure, comme la Heritage Foundation, ils ont fait le décompte des fraudes qui ont été reconnues comme telles. Et en fait, ils arrivent même à un chiffre qui est dans les 1500, mais 1500 depuis le début des années 80. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est minime. Les fraudes, en tout cas, qui sont avérées comme telles, il y en a peut-être quelques dizaines par élection, rien qui peut changer une élection, au point de même quand c'est des élections serrées, comme ce qu'on a eu par exemple en 2016 ou en 2020. Et en plus, il y a eu des recours auprès des juges. Alors évidemment, là aussi, il y a la question de la nomination des juges, le fait que ce sont des postes assez politiques, mais ça n'empêche qu'on a eu au moins à peu près 80 recours et que tous ces recours ont été en fait déboutés et ont montré que finalement, qu'il n'y avait aucune preuve réelle. Mais ce qu'on voit, par exemple, sur le Heritage Foundation, sur leur site Internet, j'ai regardé encore récemment pour voir s'ils avaient un peu remis ça à jour, et ils disent, soit on n'a pas de preuves définitives, mais on a des questions, et ça pose question. Et à partir du moment où vous insinuez le doute comme ça, et qu'à côté, il va y avoir des gens qui sont dans le complot de manière plus directe, vous avez quelque chose d'assez puissant.
Et peut-être pourrions-nous simplement avoir un exemple d'une de ces fraudes que vous donnez? C'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui vote deux fois?
Alors, ça avait été des fraudes. Par exemple, je me souviens qu'il y avait le cas de quelqu'un qui était censé être décédé, qui avait voté. Ça a été voilà, des fraudes comme ça. Alors, il y a aussi des fraudes, ou en tout cas des choses vues comme fraudes, qui sont parfois des erreurs administratives. Voilà, donc, ou des gens qui n'avaient pas eu, par exemple, leur carte de citoyen et qui était immigré mais qui était sans processus et qui avait voté quand même, ben voilà, des choses comme ça. Mais encore une fois, ces exemples vont être mis en avant. Il y a par exemple aussi le fait, on en parlait tout à l'heure, de voter plus tôt, de voter avant les élections. Donc c'est généralement des choses qui se passent dans des boîtes qui sont publiques, qui sont mises en. Et alors on va vous montrer une vidéo par exemple où quelque chose d'un peu particulier qui se passe, ou un peu bizarre, qui est pas très clair, mais qui dit ah voilà, c'est pas sécurisé. Si ça se trouve, il y a eu des gens qui ont voté là-dedans. Voilà, il y a aussi le phénomène il y a des gens qui collectent les votes pour faciliter le vote. Et là aussi, c'est remis en cause. Il y a des gens qui les accusent d'avoir rempli les urnes. Alors, normalement, c'est sécurisé, mais d'avoir quand même rempli les urnes, etc. Donc, la complication du vote, alors effectivement, surtout pendant le Covid, mais pas que, ce côté complexe du vote, en fait, favorise aussi l'idée qu'il y a peut-être un doute parfois. Et tout en moi, je crois fortement, évidemment, enfin, la plupart des gens sensés savent que s'il y avait vraiment eu des fraudes, on en aurait quand même eu des preuves. Parce que les machines à voter, par exemple, alors c'est pareil, il n'y a pas de vote, quand vous votez aux États-Unis, c'est des votes électroniques, c'est très complexe parce que vous votez pour beaucoup de personnes, vous ne votez pas juste pour des présidents, mais vous votez pour des élections locales, vous votez pour des élections au niveau de l'État. Donc vous allez avoir peut-être une quinzaine de noms qu'il va falloir cocher ou qu'il va falloir, du coup, maintenant, c'est électronique en général. Et donc, ce qui est électronique et technique et technologique, ça nourrit aussi les fantasmes. Et c'est ce qu'on a. C'était l'accusation, c'était la machine Dominion, par exemple, qui était accusée d'avoir été modifiée pour favoriser Joe Biden, par exemple. Alors, il y a eu des procès, et d'ailleurs, Dominion, la compagnie qui avait ces machines, a remis en cause et a porté plainte, et ils ont gagné leur procès.
Alors justement, quels ont été les États principalement concernés par ces rumeurs de vote truqué et quelles ont été les mesures prises par les responsables locaux? On sait qu'il y a eu certains conflits, par exemple, entre des républicains et l'aile trumpiste du parti.
Oui, alors il y a eu des lois déjà qui ont été votées, par exemple pour exiger des pièces d'identité. Il y a des lois. Alors c'est toujours au niveau des États que ça se fait. Ça peut être au niveau des gouverneurs ou des législatures locales. Il n'y a pas de loi. Il n'y a rien qui est fait au niveau fédéral. Enfin, il n'y a pas eu de loi au niveau fédéral. Il faudrait passer une loi au niveau du Congrès. C'est très compliqué puisque les élections sont toujours de la responsabilité des États. Dans certains États, il y a eu également des sécurisations plus fortes des lieux de vote, boîtes à bulletins. Et puis, ce qu'il y a eu aussi beaucoup, ce qu'ont fait les deux partis, c'était, et notamment le Parti républicain, c'est d'avoir des gens sur place qui restent là pour vérifier que le vote se passe bien, mais ça a été aussi vu comme étant une forme d'intimidation. Ça rappelle à beaucoup de personnes, et notamment pour les minorités et les Noirs américains, l'époque d'avant le mouvement des droits civiques où on intimidait les gens et où les Noirs ne pouvaient pas aller voter. Alors, il n'y avait pas de loi les empêchant de voter à cette époque-là, sauf que, en tout cas, il y avait des tests à faire passer, il y avait des remises en cause. Et c'est aussi un problème. Par exemple, sur la question de l'identité, les gens, disons, de plus pauvres qui n'ont pas forcément de voiture, par exemple, qui vivent en ville, n'ont pas forcément une pièce d'identité aux États-Unis. Les lieux de vote sont pas forcément faciles d'accès quand vous êtes en ville et que ils sont mal répartis par rapport à certains endroits comme les inner cities, par exemple, dans les grandes villes américaines. Donc, ça va dépendre aussi beaucoup de ce qui se passe au niveau local. Donc, il y a à la fois des mesures qui sont prises, mais des mesures qui en même vont remettre en cause parfois l'accès au vote pour certaines personnes, pour certaines minorités. L'une des questions qu'il y a en ce moment, c'est le vote par correspondance, le early voting, le vote à l'avance. Parce que les républicains étaient farouchement contre, c'est ce qui s'est beaucoup passé pendant le Covid. Et puis, en fait, ils s'aperçoivent que finalement, ça arrange énormément de gens, y compris dans leur parti. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a voté par correspondance. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'en ce moment, ils sont à la fois critiques et en même temps, ils disent que finalement, il faut encourager les gens à aller voter parce qu'ils se disent que si on n'encourage pas les gens à voter par correspondance, ils n'iront peut-être pas voter du tout. Parce qu'il faut voir aussi que souvent pour le vote, alors ça dépend où encore, mais parfois vous pouvez attendre de faire la queue pendant des heures pour aller voter. Et ce n'est pas un dimanche, c'est un mardi, c'est toujours un mardi et vous devez prendre sur votre temps de travail. Il n'y a pas. Votre patron ne va pas forcément vous donner, enfin en général, il ne va pas vous donner une demi-journée pour aller voter. Donc, c'est assez compliqué quand même, le vote aux États-Unis.
Et donc, je voulais simplement indiquer à nos auditeurs, si tant est que certains d'entre eux croient à ce mythe de l'élection volée, je les prie fortement d'envoyer ces preuves à Donald Trump, qui en a bien besoin, puisqu'il est lui-même sous l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires, sans parvenir à prouver des preuves. Par contre, on a des preuves, et c'était dans peut-être la prolongation de la question de Simon, si des interférences peuvent être témoignées, c'est bien celle notamment de Donald Trump qui a téléphoné, je pense, en Géorgie pour demander qu'on trouve quelques 15 000 voix. Donc, il faut peut-être être capable de bien remettre ça dans son ensemble. Rappelez également que ce mythe de l'élection volée a eu des conséquences fortes, importantes et dramatiques, puisque c'est probablement ça qui est à la base de l'assaut du Capitole qui a eu lieu au mois de janvier 2021, raison pour laquelle on va essayer ensemble maintenant de creuser et vraiment de comprendre ce mécanisme, non plus maintenant de l'élection volée, mais du complotisme en général. Oui, je vous en prie.
Je suis d'accord avec vous, effectivement. Alors, le 11, je pense que le 6 janvier ne se serait pas passé dans ces conditions-là s'il n'y avait pas eu ce mythe et cette croyance, parce que à partir du moment où vous pensez que la démocratie est en danger, que on vous a volé le vote, là, vous êtes prêt à éventuellement être violent, enfin une forme de violence politique. Et on voit aussi dans les sondages qu'il y a une partie plus importante, croissante des Américains, c'est autour de 23%, qui se disent prêts à recourir à la violence pour défendre ce qu'ils pensent être la démocratie, en tout cas.
Oui, ça rejoint d'ailleurs un sondage qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, où désormais les deux camps se regardent non plus comme adversaires, mais comme véritablement ennemis. Je ne sais plus les chiffres, mais ça fait vraiment peur et ça dit quelque chose de l'état de la démocratie aux États-Unis actuellement.
Tout à fait. Oui, alors depuis longtemps, il y a eu un historien qui a écrit dans les années 60 déjà, qui parlait du côté un peu paranoïaque de la politique américaine et notamment par rapport à la guerre froide. Et donc, la guerre froide est un bon exemple. Le terme chasse-sorcière, qui lui-même vient de l'époque puritaine, a été utilisé pendant le maccartisme. Et il y avait l'idée qu'il y avait une sorte de cinquième colonne communiste qui était infiltrée dans le gouvernement. C'est une époque aussi où on a une fusion entre le christianisme et le nationalisme. Alors ça, c'est assez important, en fait, parce que à l'époque, se définir comme américain pendant la guerre froide, c'était aussi se définir comme croyant, puisque l'Union soviétique, c'était effectivement c'était les non-croyants, c'était les athées. Donc, on a renforcé un petit peu cet aspect culturel et politique. Et puis, à partir des années, fin des années 70, début des années 80, il y a eu une politisation de la religion, notamment par les chrétiens évangéliques, qui se sont de plus en plus associés aux républicains, sachant que d'ailleurs, le premier président évangélique, c'était finalement un démocrate. Il y a eu une sorte de guerre interne. Et donc, au fil des années 80, on a eu cette politisation forte et cette association de nombreux évangéliques blancs américains au Parti républicain. Et avec la fin de la guerre froide, finalement, on a eu une nouvelle guerre, c'est la guerre culturelle. On a un candidat, par exemple, qui s'appelle Pat Buchanan, qui était un candidat à la présidentielle en 92 et qui a annoncé ça et qui l'annonçait très bien. Il disait, voilà, maintenant, ce n'est plus la guerre froide, l'ennemi n'est plus à l'intérieur, l'ennemi, c'est l'ennemi contre le christianisme, c'est l'ennemi intérieur. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette évolution et au fur et à mesure, ce récit est devenu majoritaire chez notamment les chrétiens évangéliques. Et ça, c'est important parce que chez ces chrétiens évangéliques, il y a aussi une évolution dans la théologie. Alors, je sais que ça devient peut-être un peu complexe, mais il y a une croyance qui s'appelle, qui était minoritaire à la fin du 19e siècle et qui est devenue majoritaire au cours du 20e, c'est les prémillénaristes, c'est-à-dire cette idée que le Christ va revenir, mais qu'il va revenir après une période de tribulation, c'est-à-dire une période de chaos, et que les croyants seront retirés de terre, iront directement aux cieux avant que le Christ n'établisse ses 1000 ans de paix. Donc, cette vision apocalyptique de la fin des temps, elle est très importante chez les républicains, et on l'a beaucoup entendu même du 6 janvier. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que Donald Trump a, par exemple, transféré l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'était pour plaire aux chrétiens évangéliques et parce que ça fait partie du récit dans la Bible par rapport à Jérusalem, qui est vraiment le lieu de la confrontation entre le bien et le mal. Donc, à partir de ce moment-là où vous avez cette guerre culturelle qui s'inscrit et que vous avez l'impression qu'en plus, sur la question des valeurs, parce que cette guerre culturelle, elle est beaucoup sur les valeurs, sur la société, sur les valeurs concernant les relations sexuelles, concernant l'identité sexuelle, l'avortement, etc. À partir du moment où vous êtes sur cette idée-là, et vous voyez que la culture, généralement, a plutôt été que cette guerre culturelle, elle a plutôt été perdue par les conservateurs, vous êtes en position de défense, vraiment de défensive. Et c'est ça qui a eu lieu au cours des années 90 et des années 2000. Et puis, ça s'est accéléré. Alors, évidemment, il y a eu le 11 septembre, il y a eu le Covid. J'avance un petit peu rapidement. Mais pareil, pendant le Covid, vous avez eu des mesures assez importantes de fermeture d'église, par exemple, qui rentrent dans ce fantasme aussi qu'on nous persécute. Donc, vous êtes déjà dans cette idée que vous êtes persécuté par une culture, par quelque chose de mal qui est autour de vous, la culture hollywoodienne, la culture entre guillemets libérale, c'est-à-dire de gauche aux États-Unis. Et puis en plus, vous avez ce gouvernement qui essaye de fermer vos églises. Et donc, vous êtes un peu dans cette paranoïa continuelle qu'on doit vraiment vous en vouloir. Et là, vous avez vraiment cette facilement, il est facile après de faire croire aux gens qu'on leur a volé en plus l'élection, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent perdre, puisqu'ils sont moralement la majorité et qu'ils représentent la vraie Amérique. Et il y a la question raciale là-dessus, bien évidemment, c'est-à-dire l'idée que, parce qu'il y a aussi dans la démographie, et ça c'est quelque chose dont beaucoup d'Américains sont très conscients, c'est qu'ils voient bien que les minorités visibles sont de plus en plus, enfin les minorités visibles qui étaient vraiment très minoritaires dans plein d'États deviennent majoritaires, et on sait que d'ici 2050 à peu près, il n'y aura plus de majorité blanche. Donc ça fait très très peur. Il y a la théorie du grand remplacement qui a très très bien marché, et comme on a aussi une séparation très forte dans les églises entre blancs et noirs encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle souvent du nationalisme chrétien blanc qui vote à 80% pour Donald Trump.
Ce qui est extrêmement intéressant dans tout ce que vous venez d'esquisser ici au point de vue chronologique, c'est notamment que ça fait écho à certaines grandes tendances sociologiques qui ont traversé les États-Unis. Donc typiquement, ce renouveau chrétien s'accompagne de ce qu'on appelle la panique satanique des années 80. Et ce n'est pas un hasard si vous allez avoir cette frayeur qui va mener à avoir des satanistes un peu partout, à tous les coins de rue, notamment dans les États ruraux. Vous avez l'affaire des West Memphis 3 en Arkansas, par exemple, qui est assez iconique de cette tendance-là. Arkansas, qui est d'ailleurs l'État dont est originaire un certain Bill Clinton, et qui va lui aussi, dans le courant des années 90, faire l'objet d'une cabale, pour le coup, juridique, qui va être menée par ses conservateurs, emmenée notamment par la figure d'un certain Newt Gingrich, qui va aussi incarner ce parti républicain un petit peu revisité. Donc, quelque part, Trump se situe, c'est l'héritier d'une longue tendance, et quelque part, il ne fait qu'exacerber une sorte de soupe primordiale qui était déjà là bien avant lui.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on a vu, alors on s'est tous réjouis, enfin beaucoup se sont réjouis de l'élection d'Obama, mais en fait, c'est aussi l'élection d'Obama qui explique ce qui se passe actuellement. Puisque, alors déjà, Donald Trump lui-même, dès 2012, remettait en cause la réélection, le résultat de la réélection d'Obama. Bon, alors il faut dire que c'est un vieux loup de mer chez lui, hein, puisque même par rapport aux élections aux Golden Globes, par exemple, par rapport à son show The Apprentice, il était persuadé, il avait dit qu'il ne pouvait avoir perdu par rapport à un autre show qui était très populaire à l'époque que parce qu'il y avait eu trucage. Donc c'est quelque chose qu'il a dit depuis très longtemps. Et puis à l'époque, donc sous Obama, à partir donc de 2009 et puis en 2012 notamment, il y a eu la montée du Tea Party. Et le Tea Party a vraiment commencé par une remise en cause de l'aide de l'État envers les banques, envers un certain nombre de grands financiers. Et puis, petit à petit, s'est transformé en une sorte de mouvement en partie raciste. Et on le voyait dans les manifestations où on remettait en cause Obama en tant qu'Américain. Et ça, c'est le fameux Birther conspiracy qui a été très mis en avant par Donald Trump, qui, de par sa célébrité, a été très populaire auprès d'une partie de la population qui déjà avait un petit problème avec l'idée qu'il y ait un président noir qui les représente.
Voilà, et vous avez bien expliqué donc cette guerre culturelle qui, pendant tout un temps, était perçue par les républicains comme perdue. Et je dis juste à nos auditeurs qu'on avait fait un podcast là-dessus avec Marie-Cécile Nave, justement, et qu'on peut les orienter là-dessus comme complément de cet aspect de notre discussion. Discussion, chers auditeurs, que nous continuerons la semaine prochaine, comme d'habitude. Rendez-vous donc dans quelques jours pour la seconde partie de notre entretien avec Jérôme Viala-Godefroy. Au revoir. Thank you.